conversion qui a fait date, la conversion d'un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Alors c'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 9. Il dira même plus tard dans une épître qu'il a écrit à des chrétiens que sa conversion est exemplaire, non pas pour lui-même, mais dans le sens que si Dieu lui a pardonné à lui, ça veut dire que Dieu peut pardonner à tout le monde. Parce qu'il a été si méchant, il était un ennemi, un persécuteur, et Dieu l'a aimé. Dieu lui a fait grâce. Et c'est vrai que si lui s'est converti, je crois que n'importe qui cet après-midi peut se convertir. Gloire à Dieu. Alors, Actes chapitre 9, verset 1er. « Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. » C'est un espèce de pape ou de cardinal, un chef religieux. « Et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. » Alors souvent on dit qu'il est tombé de son cheval, mais c'est jamais écrit qu'il est tombé de son cheval, ou j'ai déjà entendu cela dans des messages. Il est tombé par terre, il était peut-être en train de marcher tout simplement. Et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre et, quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ». Il répondit « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. » Les saints ici, c'est les chrétiens de Jérusalem. « Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas démontrant que Jésus est le Christ. Amen. Amen. Alors voilà un homme qui est animé de menaces, de meurtres, un homme violent, un persécuteur. Et la raison est donnée pour laquelle cet homme est si agressif, la nouvelle doctrine. Nous l'avons lu. Il voulait emprisonner les partisans de la nouvelle doctrine, au verset 2. La nouveauté dérange. Quand Jésus parlait, c'était différent. Différent de tout ce qu'on avait entendu au préalable. Et même, des personnes qui étaient venues pour l'arrêter s'en sont retournées en disant « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Cela émerveillait bien des gens, mais irritait d'autres. Parce que Jésus remettait en cause leur religion. Et c'est certain que, dans un premier temps, quand on entend la parole de Dieu, l'on est remué, parce que l'on peut être remis en cause profondément. Et cet homme était autant violent qu'il était travaillé, en fait. Parce que, dans la suite du texte, on apprend qu'il y avait des aiguillons déjà. Les aiguillons, c'est un bâton avec une pointe en fer, qui était parfois utilisé pour les bovins, pour les aider à aller dans la bonne direction. Et donc, il y avait déjà un travail de Dieu. Le Saint-Esprit aiguillonnait Saul dans la bonne direction. Mais il le vivait très mal. Il sentait que cette nouvelle doctrine commençait à le travailler. Alors, plus il était travaillé, plus il donnait le change par sa violence et son agressivité. Je pense qu'il faut que nous apprenions parfois que dans les incroyants ou même des frères et sœurs, parfois, certaines réactions excessives montrent plutôt qu'il y a un travail de Dieu. Parce que certains sont insensibles, indifférents et ne font pas de bruit. Mais Saul était agacé et énervé contre un nom qu'il combattait. Mais en fait, on ne combat pas ceux que l'on ne croit pas vraiment. Alors, il entend, il a une révélation et il entend le Seigneur lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Ce qui est étonnant, c'est que c'était un homme qui était un chef religieux, qui avait une très grande connaissance de la loi, et quand il entend la voix du ciel, il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» On pourrait se dire « Mais il doit connaître. » C'est un spécialiste juif de la religion. Il doit connaître. Mais c'est une voix qu'il n'a jamais entendue dans sa religion, qu'il ne connaît pas. Qui es-tu, Seigneur ? La voix de Jésus est différente de tout ce que l'on apprend dans les religions. La voix de Jésus, c'est quelque chose d'unique, de différent. Je suis Jésus. Pourtant, il est mort, Jésus. Il a été mort. Mais là, voilà qu'il vit. Il est bien vivant, il lui parle. Parce que la Bible dit que si Jésus-Christ a été crucifié pour nos péchés, il est aussi ressuscité pour notre justification. Et si Jésus-Christ parle depuis le ciel, c'est parce qu'il vit pour toujours, par la résurrection d'entre les morts. Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes », pourtant concrètement, Paul ne s'en prenait pas à Jésus mais aux chrétiens. Mais la Bible enseigne que l'Église est le corps de Christ et que de s'en prendre à l'Église, c'est de s'en prendre à Jésus-Christ lui-même. Il n'y a que Paul qui a entendu. Les gens ont entendu une voix, mais il y a deux autres récits dans le livre des Actes des Apôtres qui reprend le témoignage de la conversion de Saul, dans lequel on voit bien que les autres ont entendu une voix, mais ils n'ont pas compris ce qui était dit. Ça, c'est quelque chose de mystérieux dans une même réunion. Personne ne va rien entendre, sauf peut-être une. Parce que quand Dieu veut nous parler, on l'entend. Que Dieu le fasse pour vous cet après-midi. Même si les autres, personne n'entendrait, on pourrait ressortir de cette réunion. Et même les chrétiens, parfois, dans bien des réunions, les chrétiens soutiennent les réunions, l'évangélisation. Ils y assistent, ils repartent. Mais dans cette réunion, il y a une personne qui n'était pas chrétienne, qui n'a jamais entendu, qui cette fois-là, Jésus lui parle. Alléluia. Et là, c'est une révélation. Au verset 8, il est dit qu'on le prit par la main. C'est incroyable ça. Un homme si fort, avec plein de pouvoir de la part des principaux sacrificateurs, il est terrassé, il est aveuglé. On doit le prendre par la main. La Bible dit que pour se convertir, il faut redevenir comme un petit enfant. Il faut quelque part accepter de descendre de tous ses pouvoirs et d'accepter d'être pris par la main et conduit. On est humilié parfois. Hein. Pour se convertir, il faut que vous acceptiez d'être guidé maintenant et de ne plus être guidé par ce que vous saviez jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a pas grande valeur pour être sauvé. Au contraire, il faut souvent d'abord vider notre sac pour que Dieu le remplisse de ce qui lui appartient à lui. D'ailleurs, c'est une lumière aveuglante qui lui apparaît. Une lumière aveuglante. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Cette lumière qui apparaît quand Jésus parle, c'est parce que Jésus est cette lumière du monde pour nous éclairer. Mais dans un premier temps, c'est une lumière aveuglante. Il perd la vue avant de la retrouver. 3 jours plus tard, il perd d'abord la vue. Quel beau message pour chacun d'entre nous. Il faut accepter de ne plus rien voir avant de comprendre. Il faut accepter que tout ce que vous avez cru savoir ne compte pas. Il faut accepter que dans un premier temps, l'Évangile vous brouille tout. Et vous vous dites, mais je n'y comprends plus rien, je n'y vois plus rien. C'est pas comme cela que je pensais les choses de Dieu. Pour ensuite que Dieu nous donne une nouvelle vue. Une vue différente. Des écailles tombent de ses yeux, littéralement, des écailles tombent de ses yeux. Mais quel aveu ! Et pour Saul de Tarse, qui deviendra plus tard l'apôtre Paul, il a dû toujours se rappeler toute sa vie que quand il était docteur, pharisien, sûr de lui, plein de pouvoir, en réalité, il était aveugle alors qu'il pensait savoir mieux que les autres au point de les persécuter. Il était aveugle. Et des écailles ont vraiment dû tomber. Il n'y a que Dieu qui peut nous faire connaître la vérité. Toutes nos vérités sont fausses. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alléluia. Et puis, il y a le mystère de l'élection dans ce passage. On comprend Ananias, un chrétien à qui Dieu demande d'aller aider Saul de Tarse. On comprend sa réticence, mais Seigneur, il a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Et là, l'élection. Dieu dit quelque chose de très étonnant. Le Seigneur dit quelque chose de très étonnant. « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, les rois et devant les fils d'Israël et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Un instrument choisi au pire des moments. On pourrait se dire, ben, Dieu choisit les gens quand vraiment ils sont saints, quand ils ont fait leur preuve, quand... Mais c'est dans le pire moment de la vie de Saul de Tarse, quand il était un assassin, que Dieu dit, c'est lui que j'ai choisi. Extraordinaire la grâce de Dieu. Vous ne l'auriez pas choisi, je ne l'aurais pas choisi, mais Dieu l'a choisi. Pourquoi Dieu nous a choisis ? Ben, je n'ai pas la réponse. Comme dit un cantique, je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé. Alléluia. Pourquoi par son sang il efface ma dette, mon iniquité. Merci Seigneur. C'est l'élection. Quelque part, ça veut dire que même si vous êtes un pécheur, un pauvre pécheur, même si vous êtes un assassin, et vous n'êtes peut-être pas un assassin, mais vous êtes autre chose quand même. Ben, si Dieu a choisi un assassin pour lui faire grâce, comme je le disais tout à l'heure, alors il vous aime aussi, c'est certain, et il peut vous choisir pour vous sauver. Alléluia. Un instrument que j'ai choisi. L'ultra-juif qu'il était devient l'apôtre des païens. C'est écrit pour porter mon nom devant les nations. Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire. On ne mesure pas, quand on lit plus tard les épîtres de Paul, ce qu'il dit sur l'Église, où juifs et païens ne font plus qu'un seul peuple de Dieu. Toutes ces déclarations, tout sur la foi, on ne mesure pas le chemin que Paul a fait. Quelle transformation dans son esprit. C'est sûr que des écailles sont tombées de ses yeux, qu'il a fallu frapper fort tout de suite. Mais quand même, pour choisir quelqu'un qui défendait sa nation comme il le faisait, et faire de lui l'apôtre des non-juifs, des païens, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Dieu peut vous transformer au point de devenir si différent que vous seriez capable même de vivre tout le contraire de tout le mal que vous avez fait jusque maintenant. Il était mauvais envers les non-juifs. Saul de Tarse était, on pourrait dire, raciste, haineux envers les non-juifs. Il les considérait comme inférieurs. Mais il est devenu un apôtre qui a aimé jusqu'à donner sa vie pour les églises. Il dira à un moment donné à une assemblée qu'il avait les marques dans son corps, les cicatrices. Parce que pour l'évangile, pour tous les hommes, c'est écrit, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul a souffert pour tous les hommes à l'exemple de son Seigneur Jésus qui a souffert pour l'humanité entière. Alléluia. C'est un beau cheminement. Je crois que nous ne mesurons pas, même nous chrétiens, suffisamment comment Saul de Tarse s'est laissé transformer par le Seigneur au fil des années. Alors, quels sont les éléments de sa conversion? Pour terminer, le baptême d'eau. Il a été baptisé d'eau par Ananias. Il a été ensuite rempli du Saint-Esprit. Il a témoigné tout de suite, il a prêché, c'est au verset 20. Et il a fait, au verset 22, de grands progrès dans la foi, immédiatement. Quel zèle! Eh bien, pour être sauvé, il faut faire une rencontre avec Jésus-Christ. Mais cette rencontre doit se suivre d'un engagement concret, officiel. C'est le baptême d'eau. Mais il ne faut pas seulement être baptisé d'eau. Il faut être régénéré du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit est toujours promis à ceux qui croient et qui s'engagent avec le Seigneur. Alléluia. Hein, c'est écrit, repentez-vous, soyez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Toujours, si vous vous engagez avec Dieu, Dieu vous donnera son esprit. Merci Seigneur, pour vous renouveler. Et enfin, une dernière remarque, le rôle d'Ananias a été important. Eh oui, Ananias a été là au bon moment. C'est curieux, le Seigneur Jésus lui apparaît. Saul de Tarse lui dit, que veux-tu que je fasse? Eh bien, le Seigneur Jésus dit, va à Damas et il y aura quelqu'un qui va venir. On pourrait dire, mais le Seigneur aurait pu lui dire tout de suite. Mais le Seigneur n'a pas voulu que Saul de Tarse n'ait qu'une conversion mystique, mais une conversion dans laquelle intervienne un homme, un chrétien de l'Église. Parce que toute vraie conversion se vit dans l'Église, avec l'Église. Pour être chrétien, bien sûr, il faut avoir une expérience avec Jésus-Christ, mais il faut aussi ensuite vivre dans l'Église. Alléluia. Et connaître l'aide de l'Église. Ça sera toujours une trame dans la vie de Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Quand il sera apôtre, il travaillera toujours en équipe, toujours en collaboration. Paul ne sera jamais un solitaire. Pourtant, il était célibataire. Mais il n'a jamais travaillé sans compagnon de route. Dès sa conversion, Ananias l'a secouru Et toujours ensuite, malgré son zèle et sa forte expérience, il a vécu dans la communauté la foi en Jésus-Christ. Pour terminer, ben voilà le témoignage que Paul rendait. Jésus est le Fils de Dieu et il est le Christ. C'est ce qu'il disait au verset 20. Il disait, on peut le revoir, il disait dans les synagogues, il prêchait que Jésus est le Fils de Dieu. Et à la fin du verset 22, il démontrait que Jésus est le Christ. Amen. C'est mon mot de la fin. Croyez que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Christ. Alléluia. Et c'est tellement vrai que c'est un homme qui était tout à fait opposé et contre. Mais quand il a eu les écailles qui sont tombées, c'est bizarre, il a compris la Bible complètement différemment. Et il était capable, avec la Bible, de démontrer que Jésus est le Christ dans les synagogues. Pourtant, cette Bible, il la lisait depuis qu'il était né, depuis qu'il savait lire, tous les jours, et il récitait des passages entiers. Mais, comme dira plus tard l'apôtre Paul, quand les Juifs lisent l'Ancien Testament, un voile est sur eux, et ils ne voient pas. C'est en Jésus-Christ que le voile se lève, que les écailles tombent. Et ce qu'il dira plus tard aux Corinthiens, c'est ce qu'il a lui-même vécu. Quand ses écailles sont tombées, il a vu que le Christ était démontré dans les Écritures. Et plus il se fortifiait, plus il pouvait dire à ses frères juifs qu'il continuait d'aimer. Regardez, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est le Christ. Alléluia. Alors on pourrait peut-être avoir du mal à croire en quelqu'un qui est favorable, mais on peut croire l'apôtre Paul qui était ennemi et qui a été convaincu. Alléluia. Et nous aussi, vous savez, on n'a pas toujours été chrétiens, loin de là. Si nous sommes chrétiens, c'est parce que Jésus-Christ est vraiment ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu. Parce que nous aussi, avant, en tout cas personnellement et pas que moi, dans cette salle, nous étions des blasphémateurs et nous ne croyions pas que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Mais nous nous sommes trompés. Dieu soit béni, il nous a ouvert les yeux. Que le Seigneur vous fasse grâce. Amen.